39 10 11 prix d'un appel local ou sur parlons-nous@rtl.fr. Et rendez-vous demain 15h30 avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Attention, depuis Montluçon avec la super valise RTL de 15 000 euros. Très belle soirée à vous avec RTL. RTL. Vous écoutez RTL, il est 18h. RTL dimanche soir, Vincent Derosier. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour 1h15 d'infos, de témoignages, de reportages et d'invités. On est ensemble jusqu'à 19h15. Il sera alors l'heure de refaire le sport avec Isabelle Langer. Mais pour l'instant, à la une, en ce dimanche 28 avril, un adolescent de 15 ans tué hier à Châteauroux. Il a été poignardé par un autre mineur. Les détails avec notre correspondant dès le début de ce journal. Un statut plus protecteur pour les repentis, annonce d'Éric Dupond-Moretti, pour lutter notamment contre les trafiquants de drogue. Vous entendrez le garde des Sceaux, mais aussi les doutes d'un avocat. Mathilde Panot, convoquée dans 2 jours par la police pour apologie du terrorisme, la chef de file des députés insoumis a réagi pour la première fois. Et c'était tout à l'heure dans le grand jury, RTL, Le Figaro, M6, Paris Première. À suivre également une grenade au phosphore qui a bien failli exploser en Alsace. Les randonneurs ont eu très peur, mais pas de bobos. La flamme olympique est en route, elle, pour Marseille, arrivée prévue le 8 mai et qui se frotte les mains en attendant. Ce sont les hôteliers, reportage sur le Vieux-Port à suivre. L'actualité internationale avec une drôle d'ambiance dans la campagne américaine et Joe Biden qui traite Donald Trump d'enfant de 6 ans. Et puis du sport, c'est dimanche, c'est jour de foot, 31e journée de Ligue 1 avec un derby breton de haut de tableau. Philippe Audouin, Rennes-Brest, on en est où?
Et c'est un derby animé, Vincent. C'est la mi-temps, 2-1 pour Rennes avec un premier quart d'heure tout feu, tout flamme, doublé de Kalimuendo pour Rennes et réduction de l'écart de Mounier pour Brest à la 11e minute, 2-1 pour Rennes, donc à la pause.
Merci Philippe, c'est la mi-temps, mais vous nous faites signe. Ensuite, quand ça bouge, direction le Parc des Princes, demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Lyon. Baptiste Durieux, 3-2 à l'aller pour les Lyonnaises. Est-ce que c'est terminé?
Exactement, c'est terminé depuis quelques minutes. Succès et qualification des Lyonnaises. Victoire 2-1 sur la pelouse du Parc des Princes des Lyonnaises. Octuple championne d'Europe qui vont donc connaître une 10e finale de Ligue des Champions dans leur histoire. Ce sera le 25 mai à Bilbao et ce sera face aux tenantes du titre, la meilleure équipe du monde, l'UFC Barcelone. C'est la 3e fois que Lyon et le Barça se retrouvent en finale.
La demi-finale de Ligue des Champions de foot féminin. Merci beaucoup Baptiste Durieux. Dans 20 minutes, ça sera au cœur de la création. Xavier Demoulin sera avec un écrivain qui a déjà vendu, petit indice, 32 millions de livres, qui a plutôt 32 millions de lecteurs. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir Vincent.
La tendance pour demain, c'est mieux?
C'est mieux, oui, dans le nord, dans l'ouest aussi. Bon, à contrario, il y aura encore pas mal de pluie entre le Roussillon et le Massif central.
Merci Valérie, on refait un point complet à la fin du journal. À 18h30, ce sera le Mac du dimanche. On vous expliquera ce qui se passe dans la tête d'un repenti après les annonces d'Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron, obligé de partir en campagne pour les européennes à cause des mauvais sondages. Notre invitée est spécialiste des insectes et vous verrez, elle nous dira comment venir à bout du moustique tigre alors que les cas de dengue explosent en France. Enfin, une dernière tournée pour les papis. Mais attention, pas n'importe lesquels. Les Rolling Stones lancent leur tournée aux États-Unis. Et puis à 18h50, on refera la planète comme tous les dimanches avec Alain Bougrain-Dubourg qui viendra avec cet animal mystère. La réponse avant 19h. Ça vous laisse le temps de chercher. Vous avez le programme, c'est parti.
RTL dimanche soir. Vincent Derosier.
C'est une affaire qui risque de relancer le débat sur l'ultra-violence des mineurs après les événements tragiques de Grande-Synthe. Cette fois-ci, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué hier en fin d'après-midi à Châteauroux, frappé avec un couteau à plusieurs reprises, au thorax et au dos. Bonsoir Christian Panvert.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Le suspect, un mineur, a été interpellé, avait déjà été mêlé à une rixe la semaine dernière. Il avait même été condamné en comparution immédiate.
Oui, la procureure de la République le confirme. Il a été mis en examen pour vol aggravé avec violence dans le cadre d'un guet-apens samedi dernier et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat enquêteur. Ce jeune Français d'origine afghane n'a pas de casier judiciaire. Il est actuellement en garde à vue pour avoir tué hier, en fin d'après-midi, de 4 coups de couteau, le fils d'un restaurateur. Un jeune apprenti de 15 ans également. On ne connaît pas encore le motif. Guet-apens lié à un rendez-vous via les réseaux sociaux. Trafic, mauvaise rencontre, aucune hypothèse n'est écartée.
Christian, on imagine que la ville de Châteauroux est sous le choc ?
Oui, je suis allé dans le quartier Saint-Denis où j'ai croisé les parents de la jeune victime venue déposer un bouquet de roses blanches sur le lieu du crime. La police scientifique réalisait les derniers relevés sous les yeux de personnes âgées qui observaient derrière leurs rideaux et de Sonia qui était là hier au moment des faits.
J'ai entendu un monsieur crier, je croyais que c'était une dispute. J'ai juste entendu, tu te rends compte, il a 15 ans comme toi, qu'est-ce que vous avez fait ? Hier soir, j'ai mes sœurs qui sont passées me voir si tout allait bien, si psychologiquement... J'allais bien. Hein.
Pascal, un voisin, est abasourdi par ce qui vient de se passer, mais pas vraiment surpris.
Depuis quelques années, il y a beaucoup de problèmes ici, contre le trafic de drogue, les incivilités. C'est un quartier très tranquille. Et maintenant, voilà, c'est fini. Je l'ai dit la semaine dernière, je dis un jour ou l'autre, on aura un souci. C'est arrivé, quoi, c'est bien triste.
L'adolescent est toujours en garde à vue. Le maire de Châteauroux et la procureure de la République devraient communiquer demain.
Merci beaucoup Christian Panvert et puis toutes les infos sur notre application RTL et sur RTL.fr. Des tags nazis, notamment des croix gammées et une inscription Heil Hitler ont été découverts sur le monument aux martyrs de la résistance et de la déportation. C'est à 7 dans l'Hérault, une info de la direction interdépartementale de la police nationale.
RTL dimanche soir.
Dans deux jours, Mathilde Panot de la France Insoumise sera entendue par la police pour apologie du terrorisme. Et aujourd'hui, la chef de file des députés LFI est-elle invitée du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première dans le grand studio de RTL. Mathilde Panot convoquée pour s'expliquer sur un communiqué qui avait été publié le 7 octobre dernier. On en a beaucoup parlé. C'était le jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Ce texte, il avait provoqué une vive polémique puisque les Insoumis avaient refusé de qualifier de terroriste le mouvement islamiste palestinien. Pour la première fois, Mathilde Panot a réagi et c'est sur RTL.
Vous n'avez aucun problème à ce qu'une présidente de groupe parlementaire aille expliquer une opinion politique devant une brigade criminelle. C'est ça qui est en train de se passer.
Donc vous dites que c'est une tentative d'intimidation ?
Mais bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une tentative de faire taire l'ensemble des voix qui s'élèvent contre le génocide en Palestine, mais il y a une atteinte à la démocratie fondamentale. Tous les démocrates de ce pays devraient s'indigner sur ce qui est en train de se passer. La censure est incompatible avec la démocratie. L'apologie du terrorisme est dévoyée de cette manière. Vous savez, apologie du terrorisme, c'est grave. Quand une personne est condamnée pour apologie du terrorisme, ça veut dire que c'est une ennemie de la nation. Je demande à chacun et à chacune de venir mardi à 8h30, porte de Clichy, pour défendre la démocratie.
Mathilde Panot, interrogée par Olivier Bost tout à l'heure au grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. Et puis pour être tout à fait complet, un rassemblement organisé par LFI aura lieu à 8h30 mardi, à l'heure donc de la convocation. Le ministre de la Justice va créer un véritable statut du repenti. Éric Dupond-Moretti l'a annoncé ce matin dans la tribune du dimanche. Alors ce statut, il existe déjà en Italie pour lutter contre la mafia. Une législation existe aussi en France, mais elle ne suffit pas. Pour Éric Dupond-Moretti, il s'en est expliqué aujourd'hui.
On a une loi sur les repentis. Elle date de 2004. Ça a été utilisé 20 fois. Alors moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens. Historiquement, on lançait un combat acharné contre la mafia. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Les grands bandits, le haut du spectre, ils connaissent parfaitement les techniques policières. Ils savent qu'après avoir utilisé un véhicule, on le brûle. On met des gants pour l'ADN. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce que ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille chevillée au corps. Quand il y a une collaboration, les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites. Nous, je vous l'ai dit, nous avons 20 procédures. En Italie, on a 1000 affaires qui ont été réglées grâce aux repentis.
L'enthousiasme du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sur BFM TV. Hugues Vigier est avocat pénaliste. Il était l'invité d'Antoine Cavallero dans la matinale de RTL. Et pour lui, un statut de repenti, c'est bien, mais c'est loin d'être la solution à tous les problèmes.
Un repenti, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose, mais qui en attend un intérêt second. C'est une démarche intéressée. Quelqu'un qui vient dénoncer des choses, mais qui sait que en échange, lui, il
risque d'être condamné.
Il aura une peine beaucoup moins lourde, voire une exemption de peine, et il sera protégé, et éventuellement il touchera de l'argent. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va pas en rajouter ? Est-ce qu'il va pas aller dans le sens de ce qu'on attend ? Est-ce qu'il va pas dénoncer, accuser des gens, un système de manière fausse pour en avoir des bénéfices secondaires ? Et puis il y a une deuxième chose, ce que propose le garde des Sceaux, c'est une identité, un changement définitif d'identité. Aujourd'hui, c'est une identité d'emprunt. Là aussi, bien sûr, la protection, elle peut jamais être absolument certaine, mais en tout cas, il faut incontestablement l'améliorer.
Hugues Vigier, invité de RTL ce matin. Une information RTL de Steven Bellery qui concerne Véronique Sanson. Elle a été hospitalisée dans la nuit. Elle souffre d'une pneumonie, ce qui l'oblige à reporter le concert du dimanche 28 avril. Ce soir au Zénith de Nantes, dernière date d'une belle série. Le concert est reporté au 30 mai. Les billets restent valables. Véronique Sanson donne également rendez-vous à son public au Grand Rex au mois de juin et dans tous les festivals de l'été comme prévu. Et on lui souhaite un excellent rétablissement. RTL 18h09, vous restez avec nous. Dans un instant, de la fumée sur le chemin de randonneurs alsaciens, ce n'était pas du feu, mais une grenade au phosphore de la Première Guerre mondiale.
Vincent Derosier, RTL dimanche soir.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Florian Vilco est en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes concepteur de pneus chez Michelin et votre équipe a mis au point une innovation absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Ce qu'on conçoit aujourd'hui chez Michelin, c'est une roue qui s'adapte aux conditions extrêmes du sol et de l'environnement lunaire.
Ah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Eh bien, ça signifie que cette roue, elle résiste aux terrains les plus abrasifs. Et elle peut supporter des variations de température qui vont de moins de 140 jusqu'à plus de 100 degrés. En fait, c'est une roue qui est increvable et qui repousse les limites de la science.
Et ça, c'est un progrès aussi pour nos voitures ?
Bien sûr. Ce que l'on fait pour la Lune nous sert à imaginer les pneus de demain sur Terre.
Merci beaucoup, Florian Vilco.
Merci.
RTL.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL dimanche soir avec Vincent Derosier.
18h11 sur RTL. En Alsace, il y a très beaux paysages quand on aime marcher. Mais des randonneurs ont eu une sacrée frayeur sur les hauteurs de Metzeral à 750 mètres d'altitude. Ils sont tombés sur une grenade. Une grenade de la Première Guerre mondiale. Grenade au phosphore qui était sur le point de se déclencher, Yannick Holland.
Oui, ces deux trentenaires ont d'abord été intrigués par un dégagement de fumée à côté de leur chemin de randonnée. Ils se sont dit que c'était un feu de camp mal éteint et ils ont commencé à verser de l'eau par-dessus. Par chance, ça n'a pas aggravé la situation, mais en voyant que ça continuait à fumer, les deux randonneurs ont compris que ce n'était pas du tout un feu de bois. Ils se sont rapidement éloignés et ont appelé les pompiers et les démineurs de Colmar qui ont tout de suite mis en place un périmètre de 150 mètres autour de l'engin explosif. Une grenade au phosphore de l'armée française pendant la Grande Guerre. 99 ans après la bataille de Metzeral, cette grenade avait commencé à sortir de terre. Elle était tellement rouillée qu'elle avait commencé à se fissurer et au contact de l'air, elle s'est mise à fumer. Le danger était réel. En explosant, ce type de grenade peut provoquer une boule de feu de 20 mètres de diamètre. Les démineurs l'ont neutralisée sur place. Chaque année, dans le Haut-Rhin, ils doivent ainsi éliminer près de 500 engins explosifs des deux guerres mondiales.
Ouf, merci Yannick Holland, correspondant de RTL en Alsace. La flamme olympique est en mer et elle va bien. Le 3-mâts Belém s'éloigne peu à peu de la Grèce. Il est en route, vous le savez, pour Marseille où l'arrivée est prévue le 8 mai. Et l'arrivée sur le Vieux-Port, elle ne sera pas confidentielle. 150 000 personnes sont attendues d'ici une dizaine de jours. Conséquence, les hôtels du centre-ville font le plein et les hôteliers se frottent les mains, Manon Meyer.
Et oui, comme ici dans cet hôtel chic du centre-ville, les chambres ont une vue directe sur le Vieux-Port. Et pour l'arrivée de la flamme, évidemment, elles sont très prisées. Voilà ce qu'explique Mariam qui travaille à la réception.
Dès février, on était presque complet pour ce soir-là. Les gens sont plus pressés de réserver. Ils ont hâte de venir.
À quelques mètres de là, dans un autre hôtel du Vieux-Port, Kaina constate le même engouement.
On a énormément de réservations qui tombent là. Avec l'arrivée de la flamme olympique, ça rapporte beaucoup plus de personnes. Beaucoup d'étrangers, même des personnes habitant à Marseille. Je sais, j'ai eu au téléphone une personne qui habite à Marseille et qui va séjourner dans notre hôtel pour ça. Ça rapporte beaucoup de monde.
Voilà quelques Marseillais, des touristes internationaux et puis beaucoup de groupes professionnels aussi, des sponsors et des médias qui remplissent les hôtels et les Airbnb. Plus que d'habitude, Laurent Hardy, adjoint au maire chargé du tourisme.
Il y a un effet flamme olympique. La progression sur les meublés touristiques par rapport à l'année dernière est allée de plus 63%. Pour les hôtels, on a plus 21 points de taux de réservation par rapport à l'année dernière.
Une belle performance, hein, surtout que la plupart d'entre eux en ont profité pour augmenter les prix. Certains sont même allés jusqu'à tripler les tarifs de leur chambre à cette occasion.
Merci Manon Meilleur, correspondante de RTL à Marseille. L'actualité internationale, c'est l'un des dîners les plus emblématiques de l'année aux États-Unis. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Vous vous rappelez peut-être de l'iconique lâcher de micro de Barack Obama. La version 2024, c'était hier soir et le ton était aux blagues, comme le veut la tradition. Karine Auton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Les plaisanteries et les tacles un peu grinçants, c'est un domaine dans lequel excelle Joe Biden, le président, et il ne s'en est pas privé hier soir.
Oui, ça lui a d'abord permis d'évacuer l'une des plus grandes critiques à son encontre alors qu'il se présente pour un deuxième mandat à 81 ans.
It's been a year. Ça fait un an depuis mon dernier discours. Et ma femme Jill, qui est ici ce soir, s'inquiétait. Je lui ai dit, pas de soucis, ça ne s'oublie pas, c'est comme faire du vélo. Et elle m'a répondu, c'est bien ça qui m'inquiète.
That's what I'm worried about.
Et puis Joe Biden s'en est pris au candidat républicain Donald Trump, qui n'a que 4 ans de moins que lui et qu'il ne s'est pas privé de rappeler, tout en créant une distance.
Oui, l'âge, c'est un problème. Je suis un adulte qui se présente face à un enfant de 6 ans.
L'humoriste Colin Jost, époux de Scarlett Johansson, a enfoncé le clou. Il a fait remarquer à l'Assemblée que Joe l'endormit. Comme le surnomment les fans de Donald Trump, étaient toujours debout à 22h passées, tandis que l'ancien président s'était endormi tous les jours de cette semaine, lors des audiences de son procès.
Karine Auton, correspondante de RTL aux États-Unis. Un nouvel espoir de trêve à Gaza. Une délégation du Hamas arrivera demain en Égypte pour remettre sa réponse à la récente contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats. Trêve assortie, comme à chaque fois, d'une libération d'otages. 18h15 sur RTL. Vous restez avec nous dans un court instant. Un membre du gouvernement explique que les manifestants ont mis Sciences Po à feu et à sang après le blocus de vendredi. RTL a vérifié. Et puis les sports avec la Ligue 1, le derby 100% breton, Rennes-Brest. Il y a eu un but en début de seconde période. On ne vous dit pas pour qui, à tout de suite.
RTL dimanche soir. Chaque matin à 8h50.
Oui, c'est Jacques Chasseur. Oui. Ça veut dire quoi, journée mordiale de la Terre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait attention, on appuie sur le petit bouton de la chasse d'eau pour le pipi, puis sur le gros bouton pour la grosse commission, la journée de la Terre. Et que les 364 autres jours de l'année, on appuie sur le gros bouton, même pour un petit pipi. Non, on perd la tête, hein.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes?
Bah, comment vous avez deviné? Dès demain chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes? Mais ce prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix patron, hein?
Oui, bah, allez, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RTL dimanche soir avec Vincent Derosier.
À 18h17 sur RTL, le blocus à Sciences Po Paris est terminé, les CRS sont partis et vous le savez, un accord a été trouvé entre la direction et les manifestants pro-palestiniens, on vous en a beaucoup parlé. Mais il y a eu cette déclaration qui nous a interpellés ici à RTL, celle de Sarah El Haïry, ministre déléguée en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles, invitée de BFM TV hier.
Vous savez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une minorité d'étudiants, ils étaient 150 à peu près, qui ont mis quasiment à feu et à sang Sciences Po, qui utilisent
à feu
le blocage, bien sûr,
c'est-à-dire
en bloquant plus de 15 000 étudiants, en mettant en danger Sciences Po, en devant faire intervenir les forces de l'ordre pour protéger l'établissement.
À feu et à sang. Alors on a vérifié ici à RTL, contacté Sciences Po, affirme qu'aucune dégradation n'a eu lieu à l'intérieur de l'établissement, aucune violence non plus. Version confirmée par les organisations syndicales de tous bords que nous avons contactées. Les cours doivent reprendre normalement demain. Le sport avec le foot féminin et la Ligue des Champions demi-finale, retour 100% français. C'est Lyon qui s'est qualifié en éliminant le PSG au Parc des Princes. En finale, ce sera contre Barcelone. Le foot, c'est aussi la 31e journée de Ligue 1 avec la bonne opération de Lille, vainqueur à Metz de 2-1. Les Lillois prennent provisoirement la 3e place du championnat. Place provisoire parce que cette place sur le podium, les Brestois peuvent la reprendre. Pour ça, il faut gagner sur le terrain de Rennes. Et Philippe Audouin, ça ressemble à un match complètement fou là.
Eh oui, match à rebondissement puisque Brest mène 3-2 désormais alors que Rennes avait mené 2-0 après 9 minutes avec un doublé de Kalimuendo, l'attaquant rennais, sur les deux premières occasions du match. Mais Mounier avait très rapidement réduit l'écart pour les Brestois à la 11e minute. Une première mi-temps animée, plaisante et un début de deuxième période tonitruant de la part des Brestois avec le but de l'égalisation après 3 minutes seulement sur un centre de Camara dévié au premier poteau par le défenseur rennais Omari dans son propre but. Et puis il y a quelques instants, Satriano, l'attaquant uruguayen du Stade Brestois, qui de la tête, quasiment dans la lucarne, a réussi à ajuster Steve Mandanda, le gardien du Stade rennais, qui ne pouvait rien faire. 3-2 pour Brest à Rennes. Brest qui virtuellement reprend sa troisième place au classement. Mais ce match est loin d'être fini. Il reste encore une demi-heure.
C'est ça, Philippe. Hein, troisième place au classement et donc Ligue des Champions au tour préliminaire pour l'instant, si on en reste là.
Qualif direct, puisque désormais oui, il y a direct. Les trois premiers. Mais il reste encore trois journées de championnat. Attention.
Évidemment.
Hein. Mais en tout cas, c'est important, effectivement. Brest qui reprendrait sa troisième place en s'imposant aujourd'hui. Et sinon, ce serait Lille qui s'est imposé aujourd'hui, qui serait troisième aux dépens des Brestois.
Match complètement fou. Vous nous faites signe, évidemment, en cas de but. Les autres résultats de l'après-midi, les voici. Lorient-Toulouse, un but partout. Nice qui s'impose à Strasbourg 3-1. Et la lanterne rouge Clermont qui écrase Reims 4-1. À suivre encore deux affiches, de très belles affiches. À 19h, Lyon-Monaco et à 21h, Marseille-Lens. Match à suivre en direct dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Avant ça, ce sera On refait le sport à 19h15 avec Isabelle Langer. Elle viendra nous donner le menu tout à l'heure. Du foot anglais avec le mano à mano qui se poursuit en tête de Première Ligue. Victoire d'Arsenal, 3-2 à Tottenham. Manchester City, le poursuivant, qui compte un match en moins, joue en ce moment. L'équipe de France mixte de judo, sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois de son histoire, c'était aujourd'hui à Zagreb. Victoire 4-0 en finale contre la Géorgie qui était tenante du titre. Un mot de tennis pour vous dire que le français Hugo Humbert a été battu au troisième tour au Masters 1000 de Madrid. Défaite contre l'allemand Struff. Et puis la MotoGP, c'était le Grand Prix d'Espagne, victoire de l'Italien Bagnaia, double champion du monde de MotoGP. Fabio Quartararo, le français sur Yamaha, termine 15e. C'est l'heure de la météo, Valérie Quintin. Pour demain, donc, ça s'annonce un peu plus lumineux.
Alors, pas pour tout le monde, mais ce sont tout de même les éclaircies qui auront le dessus. Bien sûr, il va rester des pluies assez copieuses, d'ailleurs, du Roussillon au Massif central, des averses en remontant jusqu'à la Lorraine, mais partout ailleurs, la journée sera assez belle. Le ciel sera toutefois bien voilé sur le flanc est, soumis à nouveau à un banc de sable en altitude. Côté Mercure, ça baisse un petit peu demain matin avec une fourchette de 3 à 15 degrés entre la Picardie et la Côte d'Azur. Comptez 12 à 25 l'après-midi, 14 à Toulouse, 17 à Nantes, 19 pour Paris et Lille et 20 degrés à Colmar et Chambéry.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
Au cœur de la création sur RTL.
Et maintenant, Xavier Demoulin vous emmène au cœur de la création chaque semaine. Il reçoit un artiste qui lui ouvre les coulisses de son imaginaire. Aujourd'hui, son invité est l'écrivain français le plus lu dans le monde. 32 millions de lecteurs traduits dans 47 pays. Guillaume Musso n'est pas qu'une succession de chiffres, c'est d'abord le king du storytelling, un écrivain qui sait raconter des histoires qui embarquent ses lecteurs de livre en livre. Il est le premier écrivain français à avoir reçu le prestigieux prix Raymond Chandler qui récompense les maîtres du suspense à travers le monde. Et il nous confie ce soir ses conseils d'écriture. Écoutez.
Première chose, je dirais, trouver son talent. Son talent, c'est ce que vous êtes capable de faire, non pas mieux que les autres, mais de façon différente. Vous savez, c'est votre patte, le truc qui fait que, je sais pas, vous prenez un livre de Houellebecq, vous en lisez deux pages, vous savez que c'est du Houellebecq, parce qu'il a une façon d'écrire caractéristique, des thèmes qui lui sont propres. Et c'est pareil chez beaucoup...
Trouver sa voix.
Sa voix, oui, sa voix intérieure, voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas croire que vous allez pouvoir ne pas passer par la case travail. Travail intensif. Donc, on n'écrit pas pour gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, faites un autre truc parce que c'est tellement compliqué d'arriver à percer qu'il faut que ça soit un véritable hobby et que vous soyez prêt à y passer des heures. et des heures à recommencer, parce que écrire, c'est réécrire, ça c'est clair. Troisième conseil, ça serait, pour prendre les termes de Virginia Woolf, trouver une chambre à soi. Une chambre à soi, c'est un endroit, voilà, où vous pouvez écrire. Un endroit uniquement dédié à l'écriture. On est perturbé constamment avec les écrans, les smartphones. Il faut que vous arriviez à trouver une place. Alors ça peut être vraiment une pièce de 2 ou 3 mètres carrés, mais un endroit, un lieu, ça peut être un café, ça peut être, voilà, qui sera dédié à ça, dédié à l'écriture. Et vous savez que quand vous êtes là, vous n'êtes pas là pour aller voir Instagram ou répondre à vos mails. Vous êtes là uniquement pour travailler, parce qu'il faut un moment pour arriver à basculer dans le monde imaginaire. Et enfin, je dirais, essayer d'avoir une routine, de se dire, bon ben voilà, je me donne les moyens d'écrire tant d'heures par semaine et sur une durée de temps suffisamment longue pour arriver à un résultat. Moi, quand même, le truc qui m'est le plus utile, c'est quand même de me dire, je veux, dans la mesure de mes moyens, écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc, il y a ce processus, quand vous écrivez, de dédoublement. C'est-à-dire, vous êtes à la fois l'auteur, le romancier devant son clavier, et vous êtes le petit garçon à côté qui écoute l'histoire qu'on est en train de lui raconter.
Mais l'acte d'écrire, c'est quand même fuir le monde.
Oui, c'est être arraché un moment de sa propre vie pour vivre finalement de façon plus grande, pour vivre 1000 vies, dirait Umberto Eco, en lisant.
Donc c'est fuir le monde et c'est aussi le transformer.
Alors c'est fuir le monde pour essayer de le comprendre et pour essayer de mieux y revenir. Il y a ce double mouvement.
Et qu'est-ce que vous fuyez quand vous écrivez ? Honnêtement.
Une vie heureuse, mais une vie compliquée d'être heureux soi-même quand le monde autour de nous va mal.
Au cœur de la création avec Xavier Demoulin, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur rtl.fr et l'application RTL. Il vous suffit de cliquer sur la petite loupe dans la barre de recherche, vous tapez création. À noter, tous les mercredis, vous retrouverez également en podcast les essentiels, les coups de cœur de l'invité de Xavier Demoulin. On va très rapidement retourner au stade, un mot de foot donc, puisqu'on vient un derby breton à rebondissement. Philippe Audouin, Rennes-Brest, toujours 3-2.
Oui, pour Brest, effectivement, au Roazhon Park, mais Rennes vient d'avoir une belle occasion d'égaliser. Ce match est loin d'être terminé, encore 25 minutes à jouer. 3-2 pour Brest dans un derby breton vraiment plaisant.
Philippe Audouin au Roazhon Park, vous restez avec nous dans un très court instant. C'est le Mac du dimanche. Au menu, un statut pour les repentis, Emmanuel Macron en campagne, le moustique tigre qui envahit la France et les Rolling Stones en tournée. Restez avec nous.
RTL dimanche soir. Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin, il vous dit
« Merci chérie, c'est trop !»
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des 2 nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Je suis heureux dans la vie.
Oh là là.
J'ai perdu une dent. Ah. Je commande des matchs sans images. On me prend pour un con en grosse tête. Tout va très bien.
Ah, c'est pas la
guidance.
Il n'y a
pas
hein.
De grosse tête. Hein.
François Berléand, sauvez-moi bien. Non, non.
Bah, excusez-moi, Fume. Laurent, Fume. Vous êtes un peu responsable.
Oh, quel recrutement vous avez fait ce jour-là.
Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et retrouvez demain l'émission spéciale des grosses têtes depuis Montluçon. RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Derosier.
Repentir, j'ai trahi
le ministre.
ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'a annoncé ce matin dans la tribune Dimanche. Le gouvernement va créer un statut du repenti, statut inspiré du modèle italien pour lutter contre la mafia. En France, une législation en la matière existe déjà, mais elle est beaucoup trop restrictive et peu efficace. En tout cas, selon le garde des Sceaux, Cindy Hubert du service police-justice de RTL est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Cindy, des repentis, c'est quoi déjà et pourquoi mieux les protéger aujourd'hui ?
Alors un repenti, c'est quelqu'un qui a participé à des activités criminelles et qui a accepté de passer à table, de coopérer avec la police et la justice. En échange, le repenti peut être protégé de différentes façons selon les profils, recevoir une nouvelle identité, une protection policière, une aide financière. Mais ce dispositif n'incite pas assez à parler, il est encore très très peu utilisé. Il y a aujourd'hui 18 repentis en France et 42 personnes protégées si l'on compte leurs proches. Le gouvernement souhaite donc aller plus loin en développant ses programmes.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un ancien trafiquant repenti ? Comment vit-on ? Comment dort-on lorsqu'on a décidé de tourner le dos à son ancienne vie et d'aider la police ? Cindy, vous aviez rencontré celui qu'on a appelé le premier repenti corse. C'était en 2019, juste avant son procès.
Oh, il s'appelle Claude Chaussat, c'est un ancien membre du gang de la Brise de Mer et c'est le premier à avoir rompu la loi du silence en révélant à la justice les secrets de cette organisation mafieuse. Je me souviens d'un homme qui avait peur de se faire assassiner à tout instant. Il m'avait donné rendez-vous quelque part dans le sud de la France, dans un lieu fixé à la dernière minute. Il avait choisi une terrasse fréquentée en prenant bien soin de s'asseoir face à la rue. Je me rappelle très bien que Claude Chaussat semblait toujours sur ses gardes, prêt à s'enfuir à la moindre alerte.
Je prends énormément de précautions dans mon travail, c'est-à-dire lors de mes rendez-vous, lors de mes déplacements. Je prends énormément de précautions pour que mon domicile reste le plus secret possible. Voilà, c'est à tous les instants. Je vis en exil. Vous savez, mes filles, ça fait 7 ans que je suis remis en liberté sous contrôle judiciaire. En 7 ans, on a déménagé 8 fois. J'ai un gilet pare-balles dont je me sers si je me méfie un petit peu d'un rendez-vous. Quand on part en vacances, on essaye, oui, de réserver à d'autres noms. Mais bon, on reste aussi vigilant parce que, bon, vous savez, des fois, cette mafia a tellement les yeux partout et les oreilles partout que...
En fait, Claude Chaussat dit qu'il vit en sursis avec une cible sur la tête depuis qu'il a brisé l'omerta dans le milieu. C'était en 2009.
Je donne des noms, je donne des adresses, je donne des comptes bancaires, je donne un système, je donne des réseaux de blanchiment, je donne le fonctionnement des cercles de jeux parisiens qui étaient à l'époque la machine à cash de cette mafia. Je leur permets de décrypter un système dans lequel ils étaient dans le flou depuis des années.
Et quand vous le rencontrez, Cindy, Claude Chaussat, il s'apprête à se retrouver en face de ceux qu'il a balancés.
Oui, dans une cour d'assises à Aix-en-Provence. Alors forcément, la peur était en train de monter.
Je suis dans un état d'esprit de stress parce que énormément d'inquiétude pour ma famille qui peut se retrouver seule du jour au lendemain. On aura des escortes pour nos trajets de notre domicile jusqu'à la cour d'assises. En dehors de ça, on ne sait pas trop. Je reste extrêmement vigilant parce que en face de moi, je sais que j'ai des piliers de la Brise de Mer, des boss de cette mafia qui gangrène la Corse depuis 30 ans. Moi, j'ai toujours des retours qui me viennent de Corse. On me fait passer le message de ne pas aller à mon procès, que mon assassinat était prêt. Moi, je vais me rendre à Aix-en-Provence, je vais dire ce que j'ai à dire et au contraire, essayer de mettre encore un coup de frein à cette mafia.
Finalement, Claude Chaussat est ressorti vivant de ce procès. Il a été condamné à 8 ans de prison pour l'assassinat de Richard Casanova, l'ex-baron du banditisme corse.
Une peine plutôt clémente, Cindy, mais pour autant, malgré toutes les informations qu'il a pu partager à l'époque, Claude Chaussat n'a pas obtenu le statut de repenti, la loi n'était pas encore entrée en vigueur. Est-ce que s'il parlait aujourd'hui, il serait mieux protégé avec ce nouveau statut annoncé par le nouveau gouvernement ?
Alors ce sera au juge de décider si telle ou telle personne mérite, entre guillemets, de bénéficier de ces programmes. Mais oui, pour ceux qui ont parlé, qui ont aidé la justice et qui obtiendront ce statut de repenti, il y aura des réductions de peine devant les tribunaux, ce qui n'était pas systématique du tout avant. Et il pourra être possible de changer de nom, un changement d'état civil officiel et définitif.
Merci beaucoup Cindy Hubert, le statut de repenti et ce témoignage. On va retourner très rapidement au Roazhon Park parce que Philippe Audouin, vous êtes gâté en but aujourd'hui.
Formidable match, formidable derby breton, 4-3 désormais pour Brest qui a mené 4-2 avec une magnifique reprise de volée de Camara pour les Brestois. Mais 2 minutes plus tard, Théat, magnifique frappe des 20-25 mètres, a relancé son équipe et réduit l'écart 4-3 donc pour Brest. À Rennes et les Rennais qui sont à l'attaque, mais finalement la défense brestoise va pouvoir se dégager. Il reste 19 minutes à jouer.
Merci Philippe et gardez un peu de voix hein, parce qu'on vous retrouve tout à l'heure.
Le MAC du dimanche, Vincent Derosier.
La politique maintenant dans ce MAC du dimanche. Emmanuel Macron n'a déjà plus le choix. Le président obligé de mettre les mains dans le cambouis alors que la liste Renaissance de Valérie Ayer est largement distancée par celle du Rassemblement National emmenée par Jordan Bardella. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Du service politique de RTL, William, le scrutin n'est que le 9 juin et pourtant le chef de l'État a déjà décidé de s'en mêler, encore ce matin dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra.
Oui, et il choisit d'y aller fort parce que le groupe Ebra, ça ne parle peut-être pas à tous nos auditeurs, mais ça va du Dauphiné libéré aux dernières nouvelles d'Alsace en passant par le Progrès ou encore par le Bien public. Vous avez une dizaine de titres en tout, donc ce matin, dans les journaux régionaux de la moitié du pays, vous aviez la tête du chef de l'État en une et plusieurs pages d'interview. Alors oui, il est en campagne, ça se voit. Il répète que le Rassemblement National ne propose rien si ce n'est de la démagogie, que la guerre est à nos portes, qu'il faut se défendre avec davantage d'Europe, qu'il est même prêt à mettre une partie de notre arsenal nucléaire au service de l'Union. Emmanuel Macron, qui était interrogé par des jeunes de 19 à 26 ans, et il leur dit, je cite, « On joue notre sécurité, on joue notre avenir ».
Il y a une vraie dramatisation là, non ?
Ah oui, mais elle a commencé un peu plus tôt dans la semaine, cette dramatisation des enjeux. Grand discours sur l'Europe, c'était jeudi matin à la Sorbonne. L'Élysée ose dire que ce n'était pas un discours de campagne. L'opposition, elle veut que l'argent dépensé soit imputé à la candidate Renaissance Valérie Ayer. 1h48 de discours. Là aussi, il en avait mis une louche sur l'extrême droite, les populismes.
Ils nous ont tous habitués à un discours qui est le 8 mai. C'est-à-dire, j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple. Mais je le ferai en ne respectant pas les règles, en bafouant ses fondements. Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus payer le loyer.
Et puis, en termes de dramatisation, on peut difficilement faire plus fort que ces mots.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant. Nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Un discours, plus une interview. La semaine dernière, il s'était aussi affiché aux côtés de la candidate Valérie Ayer à Bruxelles. Donc là, oui, en une dizaine de jours, on a clairement changé de braquet.
Le RN, William, c'est vraiment la seule préoccupation du camp Macron. Dans les sondages, ils sont partis où les électeurs du chef de l'État ?
Alors il y a certains alliés du président, comme François Bayrou au Modem par exemple, qui ne sont pas très satisfaits des attaques systématiques contre le Rassemblement National, qui contestent cette tactique en disant, en résumé, si on fait tout en fonction d'eux, si on passe notre temps à en parler, on les met en lumière et on leur rend service. Mais pour le moment, c'est bien cette ligne-là qui est appliquée par le camp présidentiel dans nos sondages RTL. Il y a seulement la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 qui disent qu'ils vont à nouveau voter pour le parti Renaissance. Vous avez 50% de pertes, c'est catastrophique. Pour vous donner une idée, le Rassemblement National arrive à conserver 95% de ses électeurs à la présidentielle. Donc il y a des fuites à colmater partout. 15% des électeurs d'Emmanuel Macron sont tentés par un vote socialiste avec la liste de Raphaël Glucksmann. Je vous rappelle d'ailleurs les positions dans notre dernier baromètre. 31% pour le RN, 16% pour la liste Renaissance et 13% pour le Parti Socialiste. Donc la majorité présidentielle est distancée largement. Et en plus, il faut se mettre à regarder dans son dos parce que la deuxième place n'est même pas encore assurée.
Et en coulisses, William, qu'est-ce qu'il dit le président de l'actuelle campagne de son camp ?
Ah là, ça commence à bouillir. Il a convoqué tout le monde à l'Elysée, c'était mardi dernier, pour un déjeuner de crise. D'abord, il attend beaucoup plus d'implication de ses troupes. Et il leur a dit en résumé, arrêtez de vous planquer, on sait qui fait quoi, qui joue le jeu et qui ne le joue pas vraiment. Donc vous allez voir plein de réunions publiques avec les ministres dans les prochains jours. Par exemple, demain soir à Vouvray, en Indre-et-Loire, c'est Bruno Le Maire qui va donner de sa personne. Le président voudrait aussi que Gabriel Attal se bouge un peu plus pour l'effort collectif. Pas seulement pour sa propre image, et il lui a fait passer le message. Et puis Emmanuel Macron, lui-même, va continuer à montrer l'exemple. On va voir le visage du président sur des affiches, aux côtés de Valérie Ayé, qui reste une parfaite inconnue pour beaucoup de Français. On devrait aussi voir le chef de l'État dans un meeting de sa candidate d'ici l'élection du 9 juin. Un président en exercice dans un meeting pour les Européennes, c'est très rare. L'un des seuls à l'avoir fait, c'est Nicolas Sarkozy, et ça montre bien que l'heure est grave.
Un président en campagne et ce n'est que le début donc. Merci beaucoup William Galibert. RTL 18h39. Dans un instant, il est silencieux mais sa piqûre est beaucoup plus grave que celle d'un moustique traditionnel. On parle du moustique tigre, à tout de suite.
Le Mac du dimanche, Vincent Derosier. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est bien beau de vouloir mettre les enfants en pension. Et qui va payer tout ça? Parce que en temps normal, l'école est gratuite, mais là, c'est pas gratuit, là.
La façon d'éduquer les enfants, moi, je trouve que c'est plutôt l'État qui a les responsabilités et non pas de dire les parents ne font rien.
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pensez à covoiturer.
Ça vous arrive à vous de prendre de grandes décisions en 10 secondes?
De grandes décisions, monsieur Junio?
Moi, la dernière fois, j'étais chez moi et j'ai dit, c'est trop petit ici, on part.
Vous avez déménagé?
Non, on est parti chez mon expert agréé Rénoval et hop, 20 mètres carrés de plus.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Mon extension, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Derosier.
18h41 sur RTL dans ce Mac du dimanche, un record, mais un record qui inquiète les autorités sanitaires. Entre janvier et avril, plus de 1600 cas importés de dengue ont été recensés en métropole. Et ce, à 3 mois des JO de Paris, la pleine saison de l'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre. L'invité de RTL, bonsoir, est entomologiste. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste des insectes. Bonsoir Sylvie Manguin.
Oui, bonsoir. Oui, je suis entomologiste médicale.
Alors, entomologiste médicale, vous faites bien de le préciser. Avant de parler d'insectes et de moustiques, la dengue, c'est quoi et comment on l'attrape ?
La dengue, en fait, c'est un virus qui s'attrape par la piqûre de moustiques, en particulier de moustiques Aedes. Comme vous l'avez dit, le moustique tigre Aedes albopictus transmet très très bien ce virus, mais pas que, ça peut être aussi le virus du chikungunya, du Zika. Il y a déjà eu des cas en France métropolitaine de cas autochtones. Et donc ce moustique-là transmet le virus de la dengue aux différentes personnes, mais il n'y a pas de transmission d'homme à homme.
Pas de transmission.
Il faut systématiquement que ça passe par un moustique, comme le moustique tigre.
La dengue, c'est un nom qui fait peur, c'est grave, on en meurt, ça se soigne.
Alors, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Il y a un vaccin qui vient d'être homologué, mais qui ne concerne que les personnes qui ont déjà eu la dengue avant. Donc des personnes qui n'ont pas eu la dengue ne peuvent pas être vaccinées. Donc c'est un vaccin qu'on ne peut utiliser que dans des cas particuliers de gens qui ont déjà eu la dengue et qui vivent dans des zones où il y a transmission de dengue.
Donc le vaccin n'est pas encore la solution aux moustiques tigres et à la dengue. Vous le disiez, donc maladie grave, il y a des cas de, il y a de la mortalité.
Oui. Alors il y a un petit pourcentage de mortalité effectivement, surtout pour des personnes avec des comorbidités, des personnes qui ont déjà qui sont déjà souffrantes, malades. Donc là, ce sont des cas à surveiller. Mais d'une personne bien portante, il n'y a pas de risque d'avoir une dengue sévère, étant donné que le système immunitaire va répondre. Et par contre, on aura les symptômes seront comme une grosse grippe qui va durer plus longtemps. C'est-à-dire une grippe en été, il y a peu de chances. Donc dès qu'on a des symptômes grippaux, il faut consulter, voir un médecin, parce que ça peut être une dengue. Et les symptômes peuvent durer autour de 3 semaines avec une forte fatigue, des douleurs articulaires. Vraiment les symptômes d'une grippe.
D'une donc grippe là, il faut absolument sévère consulter. Et qui dure. Oui, donc effectivement,
oui,
c'est
ça.
On préfère l'éviter. Comment on explique cette explosion des cas depuis le début de l'année? En 4 mois, 1600 cas importés, on disait.
Oui, alors ce sont des cas importés de, en particulier des Caraïbes, hein, des territoires outre-marins, en particulier Martinique, Guadeloupe, Guyane, parce que il y a une recrudescence de, il y a carrément une épidémie dans ces territoires ultramarins actuellement. Évidemment, les gens voyagent, donc à vrai dire, ce sont maintenant les hommes qui sont vecteurs plus que le moustique, hein, parce que le moustique il est sur place, il circule autour de quelques centaines de mètres. Par contre, nous on fait des distances énormes par avion, et donc on va dans des zones où il y a des épidémies de dengue, comme actuellement, je vous dis, Guadeloupe, Martinique. On revient en France, où on va passer des vacances dans ces territoires ultramarins, on revient en France, où les personnes de Martinique-Guadeloupe viennent en France pour visiter leur famille. Et le problème, c'est que beaucoup sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont le virus dans le sang, mais ils ne le savent même pas parce qu'ils ne vont pas avoir de symptômes. Donc c'est relativement
On n'a pas les symptômes de la grippe sévère à chaque fois.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Il y a des personnes qui vont effectivement avoir des symptômes. Et puis des personnes qui auraient déjà eu la dengue avant peuvent faire aussi des cas de dengue sévère s'ils ont un autre sérotype. Parce qu'il y a 4 sérotypes qui circulent dans le monde. Le virus de la dengue 1, 2, 3 et 4. Si on a déjà eu un virus, bah admettons le 2 en Martinique et qu'on va en Thaïlande et qu'on attrape le 4, là on peut faire une dengue sévère que l'on appelle dengue hémorragique. Donc c'est vraiment c'est une maladie qui peut être
problématique, peut en plus se compliquer par la suite.
Oui, donc à contrôler.
Sylvie et surtout, Manguin, il est partout. Oui, allez-y.
Oui, surtout aller consulter son médecin dès qu'on a des symptômes grippaux.
Il est partout le moustique tigre aujourd'hui en France. Tous les départements sont touchés, non ?
Quasiment. 81% des départements maintenant sont touchés, ont du moustique tigre. Donc il y en a encore pas. Ça n'a pas été répertorié en Bretagne, dans l'extrême nord de la France, un petit peu à l'est aussi. Mais bon, 81% sur 96 départements en France sont touchés. Donc il y en a 78 où le moustique tigre circule. Pardon, c'est un peu difficile à dire. Les personnes qui se trouvent dans ces régions-là, surtout la période estivale, si elles reviennent avec du virus de la dengue, le virus peut circuler, il peut y avoir risque épidémique.
Et dernière question, Sylvie Manguin. Il semble que la recherche ait identifié une bactérie qui pourrait permettre de lutter contre la dengue. Expliquez-nous. On contamine les moustiques directement, c'est ça?
C'est ça. Oui, la bactérie s'appelle Wolbachia. Il y a des essais qui sont faits actuellement à l'île de la Réunion pour parler de territoire français. C'est une bactérie qui est utilisée en Indonésie, en Australie, dans beaucoup de pays dans le monde. mais pas à grande échelle. Il n'y a pas encore vraiment des essais sur de grandes surfaces géographiques. Par contre, on a grand espoir que cette bactérie puisse réduire à la fois les densités de population d'Aedes, si tant est que les mâles ont cette bactérie et vont la transmettre à la femelle. Donc, et du coup, la femelle aura pondra, mais les œufs seront stériles.
Donc prometteur, mais pas encore 100% efficace.
Mais c'est pas 100% efficace parce que il y a des essais qui sont vraiment pertinents.
Prometteurs.
Voilà,
et pertinent.
À voir.
Merci
et...
beaucoup Sylvie Manguin, entomologiste médicale donc et directrice de recherche sur les maladies infectieuses à Montpellier. On va retourner rapidement au stade au Roizen Park puisqu'il y a encore un but, Philippe Audouin.
On ne s'en lasse pas Vincent, un match de dingue, 4 partout désormais. Martin Terrier a égalisé pour Rennes. On est entré dans les 5 dernières minutes. En deux mots, le scénario est fou. Rennes a mené 2-0, Brest a mené 4-2 et désormais les deux équipes sont à 4 partout à 5 minutes de la fin et ce n'est peut-être pas terminé.
Eh ben vous revenez quand vous voulez, on ne s'en lasse pas non plus. Merci Philippe Audouin.
Le Mag du dimanche, Vincent Derosier.
16 villes américaines et canadiennes vont avoir le privilège de voir débarquer chez eux Mick Jagger et Keith Richards. Les Rolling Stones remontent sur scène à Houston au Texas. Coup d'envoi de leur tournée Acne Diamonds, de leur dernier album du même nom. 16 villes, 16 dates. Avant de partir à l'international, nous rejoignons notre correspondante aux États-Unis, Carrie Noton. Rebonsoir Carrie.
Bonsoir.
On n'ose plus dire que c'est peut-être la dernière tournée des Stones, tant ces légendes du rock semblent infatigables, presque immortelles en fait. Hein. Et pourtant, on peut se demander si monter sur scène à 80 ans pour Mick Jagger, 80 ans aussi pour Keith Richards et 76 ans pour Ronnie Wood, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Oui, bien présomptueux, celui qui pense pouvoir faire un pronostic à propos de la longévité sur scène des Rolling Stones, vous serez tous d'accord avec moi. Alors on parle plus de leur âge que de leur musique depuis un certain temps. Lorsqu'ils ont eu 50 ans, on disait d'eux qu'ils repoussaient les limites du rock'n'roll déjà. En 2012, lorsqu'ils ont fêté le demi-siècle de leur groupe, alors septuagénaire, on se demandait comment Mick Jagger, qui allait devenir arrière-grand-père, courait 15 km tous les soirs sur scène avec la même énergie de ses débuts. Bon, tout de même, alors qu'ils viennent de sortir leur dernier album Hackney Diamonds il y a 6 mois, ils semblent un peu plus frêles. Le batteur Charlie Watts les a quittés à l'âge de 80 ans. Mick Jagger est passé sur le billard il y a 5 ans pour une opération cardiaque d'urgence. Et même Keith Richards, que l'acteur Robin Williams décrivait comme l'une des seules créatures qui survivrait à une apocalypse nucléaire aux côtés des cafards, eh bien, le guitariste a admis que ses médecins l'ont fait arrêter de fumer. Bref, les Stones ne sont pas immortels finalement.
Acne Diamonds, Carrie, c'est le 24e album du groupe. Il est sorti en octobre dernier. C'est le premier album de chansons inédites en 18 ans.
Oui, ils ont mis du temps à accoucher de cet album. Ils l'ont commencé il y a longtemps, puisque Charlie Watts joue même sur 2 des morceaux. Puis ensuite, il a été remplacé par le batteur Steve Jordan pour le reste. Ils ont été en studio plusieurs fois pour enregistrer, mais ils ont eu du mal à créer quelque chose de spectaculaire. Et puis Mick Jagger en a eu marre. Il a mis un objectif, un ultimatum à la Saint-Valentin 2023. C'est souvent lui le moteur du groupe. Et puis ça s'est finalement fait, même si Keith Richards était plutôt sceptique. C'est un album très blues. Le guitariste a toujours affirmé qu'on ne pouvait être un bon musicien rock sans de solides fondations de blues. Et les premières parties de leur tournée américaine sont très blues d'ailleurs. Pour revenir à l'album, pour la première fois, il figure Rolling Stones Blues de Muddy Waters en version acoustique. C'est le titre dont s'était inspirée la bande de jeunes pour baptiser leur groupe. Mais bon, soyons honnêtes, les critiques sont assez mixtes. Sinon, s'il faut retenir une chanson, ce serait Angry, sur laquelle Mick Jagger a fait un gros travail de voix.
Et puis une autre Carrie avec laquelle ils ont créé la surprise du lancement de l'album.
Oui, Sweet Sounds of Heaven, Lady Gaga y chante en duo avec Mick Jagger, une rencontre de légende. Et oui, vous avez raison, c'est ce qui a symbolisé le lancement sous le manteau en octobre dernier. Cette soirée-là était un peu folle de rumeurs ici à New York. On savait qu'il se tramait quelque chose, mais impossible jusqu'au dernier moment d'avoir les détails. 500 personnes seulement étaient invitées dans une petite salle de Chelsea et Mother Monster est apparu sur scène montrant dans les aigus en face du chanteur des Stones. Il n'y a pas à dire, ils sont âgés, mais ils savent encore créer des happenings. Il faut s'attendre donc à ce que Mick Jagger saute encore sur scène.
No,
Merci Karine Auton. Les Stones qui lancent leur tournée à Houston au Texas. Merci beaucoup pour ce bon moment. Musical, RTL 18h52. Dans un instant, on refait la planète comme tous les dimanches avec Alain Bougrain-Dubourg. À tout de suite.
À Lille Entrepote, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit...
C'est une tuerie ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriade Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
On refait la planète sur RTL avec la Fondation Engie. Fondation Engie, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète. Alain Bougrain-Dubourg.
Vincent Derosier.
Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir Vincent Derosier.
On commence Alain avec le son mystérieux à découvrir.
On l'écoute. Alors lundi, c'est Diderot considérait que l'on pouvait être aussi gai que cet oiseau.
Réponse, comme d'habitude, à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
On est en mai 2020, à l'époque en plein déconfinement. Le vélo est plébiscité pour éviter notamment les confinements dans les transports en commun. Le gouvernement, avec les principales associations de cyclistes, a décidé de créer Mai à vélo, sorte de fête du vélo qui prend chaque année plus d'ampleur. La semaine prochaine, Mai à vélo va commencer une nouvelle saison. Et pour en savoir plus, vous avez rencontré Alain Antoine Laporte-Vevada. Il est directeur marketing de GeoVélo. Alors, c'est quoi GeoVélo ?
Eh bien, c'est une sorte de start-up qui a développé une application gratuite pour trouver les itinéraires à vélo les plus fonctionnels.
On fait un gros travail pour essayer de trouver les itinéraires qui conviennent le mieux aux besoins des cyclistes, notamment côté sécurité, donc en privilégiant les pistes cyclables, en évitant le dénivelé, en évitant les routes fréquentées par les voitures, etc., etc.
Alors, GeoVélo accompagne Mai à vélo qui ne propose pas seulement de faire du vélo durant tout ce mois. Hein.
Oui, effectivement, il y a également, on va dire, une sorte de compétition bon enfant entre les participants.
Dans le cadre de Mai à vélo, il y a un grand challenge d'activité qui est organisé, qui vise à inviter toutes les entités, toutes les organisations, que ce soit des villes, des employeurs, des entreprises, des écoles, des associations. Toutes ces entités sont invitées à s'inscrire à ce challenge et à faire parcourir le plus de kilomètres possible, encore une fois, selon le type d'entité, aux employés, aux habitants, aux élèves de l'école, etc.
Et qui sont les plus performants alors ?
Alors la métropole de Lille s'est particulièrement distinguée, de même que l'URSSAF ou France Travail, anciennement Pôle Emploi.
Donc il y a ce classement national sur lequel il n'y a rien à gagner, mais au sein de certaines organisations, certaines villes, certaines entreprises mettent en place aussi des classements individuels en essayant de récompenser les habitants les plus actifs pendant le mois de mai ou le ou la salariée qui va faire le plus de kilomètres à vélo pendant le mois de mai. Donc chaque organisation peut elle-même reprendre à son compte l'initiative Mai à vélo pour organiser des petites remises de prix au sein de l'entreprise, au sein de la ville.
Et on n'est pas obligé de faire du vélo que pour aller au travail.
Oh non, la France compte près de 20 000 kilomètres aménagés.
On a la chance de bénéficier d'un immense réseau de ce qu'on appelle les véloroutes. Donc ce sont ces grands itinéraires à vélo qui parcourent la France d'or au sud, d'ouest en est, en longeant les côtes, etc. On en a plein. Moi, à titre particulier, j'aime beaucoup la Loire à vélo, par exemple, que j'ai pratiqué plusieurs fois. Il y a la Vélodyssée aussi, qui longe toute la côte atlantique, qui est vraiment super à faire. Et tous ces itinéraires, là aussi, on les retrouve bien dans l'application GeoVélo et c'est plutôt une bonne pratique pour bien performer au challenge Mai à vélo. Emprunter un bout de ces véloroutes, c'est la garantie de scorer pas mal de kilomètres en une fois. Ouais.
Ça donne envie d'aller pédaler tout ça. Tous ces parcours de Mai à vélo, ils vont également servir à l'avenir ?
Oui, parce que figurez-vous que de façon totalement anonyme, il faut le préciser, GeoVélo va recueillir des données de déplacement.
Tous ces trajets qui sont réalisés avec l'application GeoVélo, Nous, on les analyse et on fournit ces analyses aux collectivités, aux territoires, aux villes, qui, sur la base de ces analyses, comprennent mieux comment les cyclistes se déplacent et ce qui doit être fait pour mieux sécuriser la pratique. Donc c'est un cercle assez vertueux parce que, en tant qu'utilisateur, moi j'ai une application qui est gratuite et sans pub et qui respecte ma vie privée, mais cette donnée-là, elle sert quand même ma ville à globalement concevoir de meilleures pistes cyclables.
Et voilà toutes les infos pour mieux pédaler avec Antoine Laporte-Vevada, le directeur marketing de GeoVélo.
On refait la planète sur RTL.
Alain, on estime désormais que tous les Français admettent qu'il y a un changement climatique. C'est vrai ou c'est faux ?
Eh bien, c'est faux. Figurez-vous qu'il reste 3% des Français qui considèrent qu'il n'y a aucun changement climatique et 28% qu'il s'agit en fait d'un phénomène naturel comme la Terre en a toujours connu. C'est le résultat d'un sondage mené par l'ADEME qui souligne pourtant que 64% des Français identifient le changement climatique comme le résultat des activités humaines.
On refait la planète sur RTL.
Alain, l'événement à ne pas manquer.
Je vous invite à rejoindre la Cité des insectes à Ned, dans la Haute-Vienne, qui propose une exposition baptisée « Les insectes au secours de la planète ». Tout un programme à l'initiative de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui lève le voile sur le fantastique potentiel des insectes. C'est jusqu'au 3 novembre 2024.
Et pour conclure, cher Alain, j'en reviens au son mystérieux de la nature que nous avons diffusé en début d'émission. De quoi s'agissait-il ?
On le réécoute. Oh, c'est facile. Voilà. C'est l'un des oiseaux les plus présents dans nos jardins. L'indice, c'était Diderot, considérait que l'on pouvait être aussi gai que cet oiseau. Ben, gai comme un pinson, c'est le pinson des arbres. Et Diderot, on parle dans son ouvrage « La religion ».